Oui, bonjour, je vais vous présenter un travail qui a été réalisé donc l'année dernière par Alice Guedet, donc dans le cadre d'une action exploratoire financée par le CASDAR, initiée par l'ACTA et donc en partenariat avec Arvalis et l'IRSTEA, qui visait en fait à développer la méthodologie ACV par rapport à des questions méthodologiques spécifiques à la fertilisation. Pour vous présenter un peu le contexte sur l'ACV, qu'est-ce qu'on en fait actuellement aujourd'hui ? Il faut savoir, l'ACV, c'est une méthode multicritère qui prend en compte les émissions qui ont lieu sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit, c'est-à-dire de l'extraction des matières premières jusqu'à l'utilisation, la production du produit, son utilisation, éventuellement sa fin de vie. L'intérêt, c'est donc cet aspect multicritère et cet aspect de pouvoir prendre en compte l'ensemble des étapes, pas avoir de transfert de pollution ou d'un impact à un autre, ou d'une étape à une autre. Cette méthode est utilisée par les différents secteurs de production, donc c'est le secteur industriel, mais aussi l'agriculture. On a un langage commun. Derrière la CV, on a deux normes qui nous permettent d'avoir une approche commune pour évaluer les impacts environnementaux de la production à chacune des étapes. En termes d'utilisation dans le secteur agricole, il est déjà utilisé, la CV est déjà intégrée dans différents outils. Souvent pour évaluer les impacts sur le réchauffement climatique ou la consommation d'énergie. Donc c'est le cas de Diater, DGES ou Cister, mais également pour évaluer d'autres impacts, donc en particulier Eden, pour évaluer les systèmes d'élevage. Autre point, c'est la méthode qui a été retenue pour estimer les impacts environnementaux qui sont affichés en fait sur les produits de grande consommation. Donc là, vous avez une illustration avec un paquet de pâtes de Casino où vous avez l'empreinte carbone du paquet de pâtes, donc l'ensemble des émissions qui ont eu lieu pour produire ce paquet de pâtes et pour cuire le produit. Alors, pourquoi on s'est poser plus particulièrement des questions sur la fertilisation. Donc là, je vous ai donné une illustration à partir des résultats d'Agribalise, dont certains ont peut-être entendu parler, un projet spécifique pour produire des références ACV pour les produits agricoles français, et qui vient de donner des résultats il y a quelques temps. Ici, vous avez l'illustration, donc la contribution de différents postes aux impacts environnementaux du blé tendre. Donc j'ai retenu uniquement les indicateurs ACV qui sont les plus usuels. Et j'ai décomposé plus particulièrement ce qui est en lien avec la fertilisation. Donc en violet, il s'agit des émissions au champ. En rouge, production d'engrais azotés. En vert, production d'engrais phosphatés. En orange, production d'engrais potassium. Et puis en bleu, le carburant. Et enfin, une catégorie grise autre. Donc, ce qui ressort, c'est que pour beaucoup d'indicateurs d'impact, c'est la fertilisation qui contribue le plus fortement aux résultats. Donc, de différentes manières, quand on regarde certains indicateurs d'impact comme l'acidification, l'eutrophisation, c'est essentiellement des émissions qui ont lieu directement au champ, donc de phosphore, plutôt des émissions d'azote. Quand on regarde d'autres indicateurs comme l'eutrophisation, eau douce ou les gaz à effet de serre, c'est à la fois des émissions qui ont lieu au champ, mais aussi des émissions qui ont lieu lors de la production des engrais. Quand on regarde l'énergie primaire, donc là, c'est essentiellement, une grande partie des consommations d'énergie primaire s'explique par la production de l'engrais azoté qui est fortement consommateur en énergie. Donc là, je n'ai pas donné d'illustration sur des indicateurs de toxicité et écotoxicité, mais effectivement, il y aurait une part qui serait liée aussi à la fertilisation, en lien avec tout ce qui est éléments traces métalliques. Donc nous, on ne prend pas en compte les impacts des éléments traces métalliques sur la toxicité humaine, c'est plutôt d'un point de vue environnemental qu'on essaie de l'évaluer souvent en ACV. Alors, pour préciser un petit peu à quel niveau on est intervenu au cours de cette action, j'ai rappelé sur le schéma les quatre étapes d'une analyse de cycle de vie qui sont définies dans la norme. Donc, il faut savoir que la norme fixe un cadre assez général, elle définit ces différentes étapes sans forcément rentrer beaucoup dans le détail sur comment on doit procéder. Donc, il y a un grand nombre de questions qui restent à la libre interprétation, libre choix de l'utilisateur de la CV. Donc, une première étape de définition du système, des objectifs, du périmètre, etc. Une étape d'inventaire des flux, donc sur laquelle on a travaillé plus spécifiquement, je vais revenir dessus. Une étape ensuite, on évalue les impacts. et enfin une étape d'interprétation. Donc, par rapport à cette étape d'inventaire de flux, qu'on appelle aussi un inventaire de cycle de vie, en fait, il s'agit de collecter, on procède en plusieurs temps, il s'agit dans un premier temps de collecter l'ensemble des données qui vont permettre de caractériser le système de production, donc à savoir en termes d'itinéraire technique et en termes de conditions pédoclimatiques. Donc là, on a des enjeux très différents en fonction de l'échelle à laquelle on se trouve. On verra ça un petit peu plus précisément par la suite. On a une étape où on estime les émissions qui ont lieu au cours de la production de la grande culture dans notre situation. Donc il s'agit de regarder déjà ce qui est émis directement au niveau de la parcelle en utilisant des modèles agronomiques. Donc on n'aura pas forcément la même finesse selon l'échelle à laquelle on veut faire la CV. On a plus ou moins de modèles agronomiques disponibles. Et on regarde également tout ce qui est émis au cours de la production des intrants, donc les engrais, mais c'est aussi les phytos, les semences, tout ce qui intervient en fait sur la parcelle. À ce niveau-là, on utilise des bases de données ACV, donc qui sont plus ou moins bien enrichies, renseignées, actuelles, enfin mises à jour selon les intrants. Donc ça pose également des questions. Donc à ce niveau-là, une fois qu'on a quantifié toutes ces émissions, finalement, notre inventaire de cycle de vie correspond en fait à des consommations de ressources naturelles, donc par exemple du cuivre, de l'aluminium, etc., et des émissions dans différents compartiments, dans l'eau, dans le sol et dans l'air, de différents éléments, donc les gaz à effet de serre, ça peut être du phosphore, etc. Ensuite, il y a des étapes qui vont suivre, qui s'agit donc de l'évaluation des impacts, où là, on va agréger ces différents flux dans l'environnement en indicateurs d'impact. Donc, par exemple, pour le réchauffement climatique, on utilise les pouvoirs de réchauffement globaux du GIEC pour pouvoir tout quantifier en équivalent CO2, mais en fait, pour chacun des indicateurs d'impact, énergie primaire, eutrophisation, acidification, en fait, on utilise des méthodes de pondération de ces flux pour les agréger. Alors, ce qu'on a fait, en fait au cours de cette étude, c'était donc de regarder au niveau de la brique en orange les différentes questions méthodologiques qu'on rencontre de manière assez récurrente dans nos études ACV, identifier les différentes options qu'on pourrait retenir et voir si on peut faire des recommandations sur ces points-là. Donc au cours de cette étude, on s'est posé à différentes échelles parce qu'en fait, on a des questions très différentes en fonction de l'échelle à laquelle on travaille. Donc, juste pour vous illustrer les échelles qu'on a prises en compte, il y avait une échelle très large qui est l'échelle filière. Et là, on avait un exemple d'application très intéressant auquel se confrontait. Il s'agissait d'Agribalis, où on devait produire des références ACV à l'échelle, pour des produits agricoles à l'échelle France. Donc là, avec des questions de collecte des données qui sont assez difficiles à traiter. On s'est posé également des questions à l'échelle de la rotation et de la parcelle. On a mis entre autres en œuvre la méthode ACV sur des cas types, à la fois pour des tests méthodologiques par rapport à différentes questions. Je me suis rendu compte que j'avais oublié. Par rapport à différentes questions, donc je vous illustrerai plus tard. Et on l'a mis aussi également en œuvre pour voir de quelle manière on arrive à prendre en compte les leviers d'action qui sont souvent préconisés en termes de gestion des éléments fertilisants, de quelle manière en fait nos indicateurs ACV sont sensibles et de quelle manière aussi finalement, est-ce qu'on arrive bien à les prendre en compte ou pas. Une autre étude, elle s'est faite à l'échelle du chantier. Donc là, c'était beaucoup plus spécifique. C'est une application de la CV qui est moins fréquente, que je vais un peu moins présenter ici. Donc il s'agissait en fait de voir de quelle manière les performances environnementales du matériel d'épandage influaient sur les résultats ACV. Donc l'objectif de l'étude, en fait, c'était donc de parcourir ces différentes questions méthodologiques, de tester éventuellement ces différentes options quand on avait différentes options qui se rencontraient, de manière à pouvoir produire des outils pour les utilisateurs de l'ACV, pour les guider en fait dans les choix méthodologiques, dans les questions méthodologiques qu'ils rencontrent en fait. Donc un autre point, c'était de quantifier les impacts sur les résultats ACV de levier d'action, et puis identifier des questions de recherche qui restent encore en suspens parce qu'il y a certaines questions méthodologiques où on n'a finalement pas trouvé de réponse et ça reste encore des points à creuser pour d'autres projets pour la suite. Donc, en termes de livrables, il y a eu donc déjà des fiches sur les modèles d'émissions, également des documents sur la question des allocations, un rapport sur la partie levier d'action, et puis deux rapports plus spécifiques sur tout ce qui est à l'échelle du chantier, où là je vais moins rentrer dans le détail, et enfin une synthèse qui décrit l'action de manière globale. Donc moi je vais plutôt vous présenter trois points pour vous illustrer en fait quelles questions on rencontre, qu'est-ce qu'on peut proposer, jusqu'où on est allé dans l'action, et qu'est-ce qui reste encore en suspens. Donc en particulier sur la question des modèles d'émissions, la question des allocations et enfin sur l'application de la CV pour estimer l'impact de levier d'action. Donc un premier gros chantier a été de faire un état des lieux des modèles d'émissions qui existent et qu'on utilise, qu'on a pu identifier dans la bibliographie ACV. Donc émissions en lien avec les étapes, les opérations de fertilisation, et on s'est concentré sur certains flux. On a regarder tout ce qui était protoxyde d'azote, ammoniac, nitrate, les NOx, le phosphore et les éléments traces métalliques. On a écarté volontairement tout ce qui était stockage carbone, parce qu'il y avait des discussions en cours dans le cadre du projet Agribalis notamment, et c'était déjà suffisamment un travail suffisamment long, donc on s'est arrêté à ces flux-là. Donc il s'agissait en fait de conduire des travaux bibliographiques, échanger éventuellement avec les communautés de scientifiques, pour améliorer notre connaissance de ces outils-là et de synthétiser un ensemble d'éléments dans des fiches synthétiques de manière à décrire les principes généraux des modèles, quelles sont leurs données d'entrée, à quelle échelle on les utilise, quels sont leurs avantages et leurs limites. Donc, il y a eu 22 fiches de produites. Et sur cette diapo, vous avez le détail des modèles qui ont été identifiés pour les différents flux. Donc là, très brièvement, on a synthétisé quelques critères qui ont été pris en compte pour décrire ces modèles. Donc en particulier l'échelle, le domaine de validité, la date de publication, donc l'accessibilité, c'est-à-dire est-ce que finalement le modèle était disponible entièrement dans la bibliographie ou est-ce qu'il fallait une convention pour pouvoir accéder au modèle. L'exigence en données qui correspond à la fois est-ce que cela demande beaucoup de données, mais aussi est-ce que cela me demande beaucoup de données peu disponible en fait. Ça, il y avait ces deux critères, la quantité et la disponibilité des données requises. Et enfin, une autre question qui était est-ce que le modèle est très. Enfin, quelle est sa finesse par rapport à la prise en compte de levier d'action ? Donc, ce qu'on a pu constater, c'était que bon, pour tout ce qui était flux d'azote, on avait souvent le choix entre différents modèles. Des modèles plutôt utilisés pour faire des inventaires nationaux. Donc là, ces modèles-là, ils sont très disponibles. Ils ont une échelle, enfin, ils sont à une échelle donc nationale, un domaine de validité important, très simple à mettre en œuvre. Par contre, en termes de prise en compte des pratiques, là, on était souvent très très limité. Or, si on fait de la CV, c'est souvent dans une optique d'éco-conception, d'amélioration des pratiques, et là, on va rester un petit peu limité. Sinon, il y a des outils à l'échelle de la parcelle, donc plus fins, pas forcément totalement disponibles, et là, qui posent des questions, des problèmes de mise en œuvre quand on doit traiter des études à l'échelle de régions, de filières. Là, ça pose des questions. Et puis, il y a d'autres flux, donc, par rapport au flux azoté, il y a quand même les NOx qui présentent un cas particulier. Là, on a souvent eu plutôt des modèles de type inventaire assez grossiers. Donc, je pense qu'on a des problèmes, probablement comme sur l'ammoniac, ce qu'avait dit un peu Jean-Pierre hier, c'était que souvent, ce sont peu de références françaises qui viennent alimenter ces modèles, donc peut-être peu adaptés. Puis surtout, on avait fait une petite étude et il y a des grosses différences de résultats entre les différents modèles, donc on obtient des ordres de grandeur assez différents. Et puis des flux comme le phosphore et les éléments traces métalliques, où là, on n'a pas vraiment le choix. Donc on est sur des modèles suisses, donc pas adaptés à la France et pas forcément disponibles entièrement. Donc là, je vais revenir sur la thématique des allocations. Donc effectivement, je suis passée un peu vite sur mon schéma sur les inventaires de cycle de vie ou inventaires de flux. Donc je vous disais, on a caractérisé sur mon système le système de production tout ce qui était émissions et consommation de ressources naturelles. Il y a une autre étape qui serait en fait d'allouer les émissions qu'on a pu quantifier entre différents produits, si on est sur un système qui aboutit à la production de différents produits. Donc, c'est une question assez récurrente en agriculture, en particulier en grande culture. Donc là, je vous avais un schéma qui présente les différentes échelles sur lesquelles on s'est penché au cours de l'étude. Donc, en ordonnée à l'échelle temporelle, avec donc différents niveaux, on peut travailler à l'échelle d'un système de culture, à l'échelle d'une culture ou à l'échelle d'une pratique culturelle ou d'un chantier, et différentes échelles spatiales. On peut s'intéresser à une parcelle ou à plusieurs parcelles d'une exploitation ou à toute une filière où là on doit faire une collecte plus importante. Donc là on a vraiment un problème dans le raisonnement, en fait, dans ces changements d'échelle. En ACV, on travaille souvent à l'échelle de produits. Donc autant on arrive à l'échelle d'un système de produits à essayer de faire ce bilan d'émissions et de consommation. Autant quand on revient à l'échelle de la culture, ça pose question, tout simplement parce qu'il y a des pratiques qui sont raisonnées à l'échelle du système de culture, donc pas vraiment, enfin pas spécifiquement par rapport à des besoins de la culture, mais par rapport à toute cette succession culturelle. Et puis on a des émissions qui sont liées à la fois à des pratiques qui ont lieu sur une culture, mais aussi sur les autres, par exemple culture précédente, culture suivante. Donc ce qui rend assez complexe le En fait, c'est assez difficile de proposer des règles d'allocation qui soient pertinentes d'un point de vue agronomique pour redistribuer les impacts à chacune des cultures d'une rotation. Ça devient encore plus complexe quand on doit travailler à l'échelle d'un territoire où là, si on doit vraiment essayer d'intégrer en fait ce raisonnement agronomique pour allouer les flux entre les cultures, ça demande non plus à faire une collecte de données sur les pratiques réalisées sur une culture, mais bien sur l'ensemble des cultures du système. Alors, en termes de thématiques traitées dans le cadre de l'étude, donc, les questions se posent en particulier par rapport à tout ce qui est apport d'engrais organiques. On apporte de l'engrais organique, il y en a une partie disponible pour une culture, mais il y en a d'autres parties disponibles pour les cultures qui suivent. C'était le cas également sur l'allocation des impacts liés aux résidus de culture. On s'est posé des questions sur est-ce qu'il faut l'attribuer à la culture qui les produit ou à la culture suivante. Les nitrates au cours de l'interculture, finalement, à quelle culture comment on doit redistribuer ces pertes entre deux cultures ou toutes les cultures du système. Et là, je vais vous illustrer plus spécifiquement la question qui se pose pour le phosphore. Des pratiques de blocage par rapport aux apports. Donc on va peut-être apporter plus spécifiquement les apports sur des cultures exigeantes, donc en quantité plus importante que ce qu'elle va exporter, mais les quantités restantes sont disponibles pour les cultures suivantes. Donc ça n'est pas pertinent d'allouer tous les impacts à la culture qui reçoit l'apport. Alors, dans ce travail-là, ce qu'on a fait, c'est une recherche bibliographique des différentes règles d'allocation qui ont pu être proposées dans les ACV. Donc, c'est pas forcément. Enfin, on en a retenu quelques-unes. On n'a pas forcément tout testé sur des cas types, mais bon, il faut savoir que c'est pas une thématique qui est grandement traitée en fait en ACV. Enfin, les bases de données ACV grande culture les plus utilisées ne procèdent pas à des allocations entre les cultures de la succession culturelle. Donc là, on a en fait testé des règles d'allocation qu'on avait pu identifier sur un cas type en Champagne-Ardenne. Donc c'est une rotation colza-blé tendre, betterave-blé tendre, orge de printemps. Et on a testé trois règles d'allocation. Donc une première règle, c'est sans allocation. Une deuxième règle, au prorata des exportations. Et une troisième règle qui est au prorata des doses préconisées selon la méthode commifère que Christine a pu présenter déjà un peu hier. Donc en sachant que dans cette méthode, on va prendre en compte à la fois ce qui est... Ouais. Donc on prend en compte ce qui est exporté par la culture, on prend en compte également la teneur du sol, on prend en compte la notion d'exigence et on prend en compte aussi l'historique des pratiques de fertilisation phosphatée. Ici, vous avez, il n'y a plus l'unité, mais vous avez en fait les kilos de phosphore par hectare qui sont du coup attribués à chacune des cultures en fonction des règles d'allocation. Donc la première sans allocation, on se retrouve avec des cultures qui se retrouvent avec aucune dose de phosphore attribuée. Au prorata des exportations, donc là on commence à redistribuer entre les cultures. Et puis pour les doses préconisées, on a des situations très différentes en fonction de la teneur en phosphore du sol. Donc on se retrouve parfois à des situations où on a également à nouveau aucun apport attribué aux cultures. Donc, je me dépêche rapidement. Là, ce sont les résultats en fait de ces règles d'allocation sur l'estimation des émissions de phosphore dans l'eau. Où là, très rapidement, vous voyez qu'il n'y a pas eu d'impact. En fait, le modèle que l'on utilise, donc c'est un modèle suisse, qui prend en compte tout ce qui est perdu par érosion, ruissellement et drainage. Et c'est le poids de l'érosion qui est le plus important. Finalement, le modèle est peu sensible à la dose de phosphore. Si j'arrive là maintenant au résultat en termes d'indicateurs d'ACV, donc là il s'agit d'un modèle eutrophisation eau douce RIS-IP, donc il s'exprime en grammes de phosphore par hectare. Là on voit par contre que même s'il n'y a pas eu d'impact sur les résultats d'émission, il y a eu un impact sur les résultats d'indicateurs ACV, tout simplement parce que si vous vous souvenez du graphique Agrivalis que je vous avais présenté, il y a l'impact de la production du phosphore qui représente près de la moitié en fait de l'impact eutrophisation eau douce. Donc finalement, allouer la quantité de phosphore apportée sur un système de culture, mais entre les différentes cultures de la rotation, a bien un impact sur les résultats SCV. Et nous, on s'est orienté plutôt, on avait une préférence plutôt pour une allocation sur la base des exportations, tout simplement parce qu'il y avait, c'est plus facile à mettre en œuvre. Et puis, on ne se reposait pas cette question des situations où finalement on attribuait des quantités très faibles à des cultures, alors que malgré tout, à l'exporter, par exemple, vous voyez que avec la méthode, selon les doses préconisées, selon la position de la culture dans une rotation, selon si la culture précédente a reçu ou non des apports, on va lui attribuer un impact plus ou moins important. Là, ça ne nous paraissait pas très pertinent. Et enfin, je vais vous présenter rapidement ce que l'on a fait en termes de mise en œuvre de l'ACV sur un nouveau un cas type pour simuler l'impact des leviers d'action sur les indicateurs ACV. Donc là, on est parti sur un cas type en Pays de Loire, une rotation maïs-fourrage-blé tendre. On a en particulier travaillé l'impact de l'implantation de cultures intermédiaires, ainsi que l'impact Oui, l'impact du choix de différentes formes de fertilisation. Alors à savoir dans les scénarios de fertilisation, dans les pratiques de fertilisation dans chacun des scénarios, donc il n'y a pas eu de changement entre la référence et le cas où on a une CIP en moutarde. On a ajusté la dose d'azote sur le maïs fourrage quand on avait une association crucifère légumineuse. Et puis sur la fertilisation, le scénario fertilisation minérale. Donc au départ, on avait du lisier de bovin apporté sur maïs fourrage. Là, on a fait une simulation en apportant de l'ammonitrate et du coup en complétant, en apportant également du phosphore et du potassium en complément. Donc là, c'est un tableau qui présente en fait les différentes options méthodologiques qu'on a retenues pour cette simulation. Donc là, on n'a volontairement pas saucissonné nos résultats par culture, du fait des questions que j'ai pu soulever auparavant. Ça nous paraissait plus pertinent pour évaluer l'impact de levier d'action de rester à l'échelle d'un système de culture. En termes de modèles d'émission, on a utilisé des modèles qui sont assez couramment utilisés en ACV. C'est souvent des modèles plutôt de type inventaire. Sauf DEAC, qu'on a utilisé, qui est un peu plus fin. Donc, sinon, pour tout ce qui est impact de la production des intrants, on a utilisé GESTIM. Pour tout ce qui était énergie et gaz à effet de serre, et OKO Invent, donc une autre base de données pour les autres flux. Et puis, dans les modèles de caractérisation, donc c'est également des modèles qui sont assez courants en ACV. Je ne vais pas redétailler. Et ici, vous avez les résultats donc de ces différents scénarios. En bleu, la référence. En rouge, le scénario implantation d'une culture intermédiaire, donc moutarde. Et en vert, culture intermédiaire, mais association crucifère légumineuse. Et en violet, l'ammonitrate. Quand on regarde au niveau de l'indicateur réchauffement climatique, il y avait finalement très peu de différence entre les scénarios. Celui qui se démarque un peu plus, c'est la culture intermédiaire en association crucifère légumineuse, parce qu'on a permis une économie d'engrais azoté minéral. Cette économie a été en partie compensée par une légère augmentation de la consommation de carburant. En termes d'énergie primaire, celui qui se démarque, c'est le scénario ammonitrate, donc tout simplement à cause de la production de l'engrais azoté minéral. Mais on a également une légère augmentation pour les couverts intermédiaires du fait de l'augmentation de la consommation de carburant. Et puis pour donc le scénario association crucifères légumineuses, on est un peu plus proche de la référence, tout simplement parce qu'on a une augmentation de la consommation de carburant, mais également donc une réduction de l'azote minéral à apporter. Donc cela, ce qu'on pense en partie. En termes d'acidification, c'est le levier, enfin le changement de forme qui a le plus influé sur les résultats. En fait, il n'y avait pas de paramètres qui avaient évolué sur les autres scénarios en termes d'acidification. En termes d'eutrophisation, donc là, ce qu'on observe, c'est l'effet des crucifères, et en particulier de l'implantation de la moutarde. Bon, il y a un effet également dans le cas de l'association crucifère légumineuse, mais plus faible. Et puis, ce qu'on voit également, c'est une réduction de l'impact eutrophisation dans le scénario ammonitrate, tout simplement parce qu'il y a eu une réduction des émissions d'ammoniac par rapport au scénario de référence. Et donc, l'impact des retombées atmosphériques de l'ammoniac sont pris en compte dans le modèle de caractérisation eutrophisation marine. Et enfin, l'eutrophisation eau douce, là, il n'y a pas eu de changement, de modification entre les différents scénarios, hormis le scénario ammonitrate, parce qu'en fait, on a apporté des apports cette fois-ci sous forme de phosphore, cette fois-ci sous forme minérale. Et je vous disais, l'impact de la production de l'engrais phosphaté est très important. Donc là, il se retrouve pénalisé sur cet indicateur-là. Donc en conclusion, donc là, ce qu'on a pu aboutir au cours de l'étude, c'était à la mise en place d'outils pour aider les praticiens de la CV dans leur choix méthodologique. Donc souvent, on ne va pas jusqu'à la recommandation, parce que c'est assez difficile, les choix sont différents, plus ou moins pertinents en fonction des objectifs qu'on se donne. Donc c'est difficile dans l'absolu de donner des recommandations, mais là il s'agissait plutôt de faire des fiches qui présentent de manière synthétique les limites et avantages de certains choix. Donc ça peut aider dans les choix que font les utilisateurs de la CV, quand ils ont vraiment un choix à faire. Ça peut également les aider au niveau de l'interprétation des résultats, en fait, de savoir le modèle choisi, il prend plus ou moins bien en compte ça. Effectivement, il y a tel levier d'action qui est mis en avant par le modèle, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Voilà, ça permet de prendre en compte d'autres questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions méthodologiques qui se posent. Il y a des pistes d'amélioration qu'on a pu identifier. Donc, en particulier, quand je vous ai présenté les résultats sur les leviers d'action, on est toujours assez gêné dans la comparaison de ces leviers forme d'engrais, forme entre l'engrais minéral et l'engrais organique. Déjà, l'engrais organique, on a souvent des questions qui se posent sur comment on estime les impacts de la production de cet engrais organique, quels impacts on attribue à l'élevage, quels impacts on attribue aux cultures. Donc ça, c'était une des questions d'allocation qu'on avait également rencontrées et qu'on n'a pas pu traiter dans le cadre du projet. Sur les engrais minéraux, on a également le souci qui se pose de ne pas disposer de références dans les bases de données ACV qui soient suffisamment récentes pour permettre une comparaison des formes qui soit pertinente. Donc, on avait produit des références dans le cadre de GESTIM qui datent de 2006. Il y a déjà eu des évolutions qui ont été faites depuis. Il faut savoir que les références de GESTIM, on a du mal aussi à les défendre, à les faire reconnaître, tout simplement parce qu'on se focalise sur des impacts énergie, gaz à effet de serre. Et que quand on fait des ACV, donc on est amené à étudier l'ensemble des flux et on nous demande de ne pas multiplier les sources en termes de masse de données, mais prendre celle qui est la plus complète. Donc, ce n'est pas GESTIM, c'est souvent EcoEnvironment qu'on utilise et qui est encore plus obsolète. Sur les émissions de phosphore, là, on est complètement démunis en termes de modélisation. Et puis, ce qui manque là, qui sera encore à travailler dans un futur assez proche, c'est la prise en compte du stockage carbone dans les bilans gaz à effet de serre. Autre amélioration, mais cette fois-ci à plus long terme, c'est essayer d'intégrer d'autres indicateurs. Donc en particulier, écotoxicité et toxicité que je ne vous ai pas présenté là, parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'incertitudes à tous les niveaux, en termes de modélisation des émissions, en termes de caractérisation, enfin des modèles qui permettent d'agréger les flux pour avoir un indicateur toxicité ou écotoxicité. On utilise très rarement des indicateurs de qualité des sols également, mais ça serait pertinent peut-être à prendre en compte quand on compare différents scénarios de fertilisation. Et enfin, l'indicateur CV biodiversité, il y a des démarches qui sont mises en œuvre, mais qui actuellement ne font pas consensus et sur lesquelles qu'on n'utilise pas encore actuellement. Merci. Je vous remercie.
Merci Aurélie. Malheureusement, le temps des questions a été consommé, mais on va prendre une ou deux très rapides, et puis vous pourrez continuer le dialogue avec Aurélie après, sur cette approche très intéressante. Est-ce qu'il y a... Je vous dis qu'il n'y a pas de temps, mais je vous propose quand même de poser une ou deux questions. Tout le monde a faim, c'est ça? Non? Vraiment pas? Bon. Non. Eh bien, merci.